L'actualité s'écrit en images ce matin.
Avec Libération notamment, qui fait la part belle aux photographes à l'occasion des rencontres photographiques d'Arles. Parmi les images de Libé ce matin, il y a celle d'une femme sortant de la présidence de la République à la nuit tombée, Mimi Marchand, visiteuse du soir de l'Élysée. Mais c'est pour une autre image que cette impératrice de la presse People vient de déposer une plainte pénale pour atteinte à l'intimité de la vie privée, écrit le journal. Un comble pour celle qui commercialise depuis des décennies via son agence Best Image des photos plus ou moins volées ou arrangées de stars plus ou moins grandes avant de bifurquer sur la politique. La photo de François Hollande compte en fleurette à Valérie Trier-Weller sur une plage marocaine avant de concourir à la présidentielle, c'est elle. Du moins l'un de ses paparazzi. Les multiples couvertures de Paris Match célébrant Brigitte ou Emmanuel Macron au risque du comique de répétition, c'est encore elle, dit Libération. Éternel gag de l'arroseuse arrosée, Mimi Marchand n'a guère apprécié la récente publication début mai dans le Canard Enchaîné et dans le Point d'une photo la montrant faire le V de la victoire dans le bureau présidentiel d'Emmanuel Macron, fraîchement élu. Tout un symbole, le People aurait pris le pouvoir au sein de la Macronie. La preuve par l'image. L'image qui raconte aussi le mondial de football en Russie avec les photos du grand photoreporter russe Sergueï Ponomarev pour illustrer la qualification des Français pour les demi-finales de la Coupe du Monde après leur victoire sur l'Uruguay. Une équipe de France qui maîtrise, écrit Libé, qui joue entre deux, le fameux bloc médian évoqué par son gardien remplaçant Steve Mandanda, une sorte de nini ou de... En même temps, footballistique qui trouble même les équipes à l'identité marquée.
Et qui fait naître en France l'espoir d'une apothéose, comme il y a 20 ans, écrit Libération.
Oui, dans le Parisien aussi, on sent l'enthousiasme qui monte avec cette qualification. Et la France s'embrasa, écrit le journal, citant un père de famille qui veut faire vivre à ses enfants ce qu'il a vécu en 1998. Dans l'équipe aussi, certains se mettent à sauter des étapes et rêvent à la victoire, le titre suprême pour le quotidien sportif, dans un article qui relate les supporters enthousiastes et qui donne déjà rendez-vous sur les champs le 16 juillet. Bon, avant ça, il faudra remporter déjà la demi-finale contre la Belgique, les Diables Rouges vainqueurs du Brésil hier.
Et là, la France pourra vraiment se sentir en vacances.
Oui, il flotte déjà un petit air de vacances dans vos journaux ce matin. Les résultats du bac sont tombés, Paris-Plage prend ses quartiers d'été dans la capitale à partir d'aujourd'hui. Le Parisien vous détaille d'ailleurs toutes les activités proposées sur les bords de Seine ou sur le bassin de la Villette. Préparez-vous d'ailleurs à des records d'affluence. On attend 9 millions de visiteurs à Paris dans les prochaines semaines. Les réservations d'avions et de nuits d'hôtels sont en hausse. Au point que la saturation menace les sites touristiques français, écrit le Figaro. Paris, Versailles ou le Mont-Saint-Michel font face à un raz-de-marée. Des monuments historiques bondés, des sites naturels abîmés, des habitants en colère. Aujourd'hui, 95% des voyageurs se rendent sur moins de 5% de la planète. La surfréquentation touristique ne se cantonne plus à Venise, Barcelone ou Santorin. La France, première destination touristique mondiale, n'est pas à l'abri, dit le Figaro. Le gouvernement attend 100 millions de visiteurs en 2020. Cela suppose de mieux organiser les flux de voyageurs, développer des circuits nouveaux en région, mieux répartir le flot de visites des sites emblématiques, quitte à afficher complet. C'est une équation complexe car le tourisme représente à lui seul 7,2% du PIB français. Et partout dans le monde, on teste des remèdes à l'afflux de visiteurs. Accès payant, itinéraire de délestage, système de réservation ou prix modulé en fonction de l'affluence. Toutes les recettes sont détaillées dans le journal qui liste les 5 sites mondiaux victimes du surtourisme et qui ont atteint aujourd'hui les limites de leur capacité d'accueil. Il s'agit du Machu Picchu, de la Tour Eiffel, du Taj Mahal, d'Angkor et de la Place Samar à Venise.
Et tout le monde n'est pas parti en vacances. Hein. Pourtant, Juliette, il y a aussi une actualité plus grave dans vos journaux ce matin.
Oui, les nuits d'émeutes qui se succèdent dans plusieurs quartiers de Nantes, dans l'ouest de la France, faisant craindre un embrasement incontrôlable après la mort d'un jeune automobiliste de 22 ans, Aboubacar Fofana, lors d'un contrôle policier dans le quartier du Breil. C'est ce qu'écrit Le Parisien, aujourd'hui en France. Le policier mis en cause évoque désormais un tir accidentel contredisant la version initiale de l'équipage qui parlait de légitime défense. Il a été mis en examen hier soir et placé sous contrôle judiciaire. Et puis, le journal Le Monde, daté de ce samedi 7 juillet, revient, lui, sur l'évasion de Faïd Redouane, qui met en lumière, selon le journal, l'état de crise de la direction pénitentiaire en France. La question d'éventuels dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire est posée. Trois membres de l'inspection générale de la justice sont arrivés mardi dernier au centre pénitentiaire de Réau pour entendre les personnels. Le quotidien évoque une matière ultra sensible sur fond de tension au sein de l'administration. En quelques jours, les différences d'appréciation entre la direction nationale et la hiérarchie régionale sur le cas de ce détenu particulièrement signalé sont devenues un fossé. L'affaire cache la situation critique de la situation de l'administration de pénitentiaire, actuellement en manque de candidats au poste clé et qui apparaît coupé du terrain, selon le journal Le Monde. Un autre schéma d'organisation de l'administration centrale est à l'étude. Et puis il y a ceux qui réfléchissent également au monde de demain. C'est la une de La Croix aujourd'hui, à l'occasion des 18e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, le quotidien catholique porte cette année un regard sur le thème des métamorphoses du monde, notre évolution face aux révolutions, et cite Jean-Hervé Lorenzi, qui est président du Cercle des économistes qui organise ces rencontres. Nous vivons aujourd'hui une des périodes charnières de l'histoire. Nos évolutions face aux révolutions, les grandes métamorphoses actuelles ont ce site spécifique et d'inédit qu'elles sont toutes en interaction, intimement liées entre elles et suscitent des tensions d'une ampleur inimaginable. Après la chute du mur de Berlin, nous pensions que la marche du monde allait s'orienter vers une gouvernance mondiale reposant sur un dialogue entre les États. Cette projection n'est plus d'actualité. Nous vivons une période de transition où le dialogue est brutalement remis en question à tous les niveaux. Alors pour nous redonner espoir, pour nous refaire rêver, La Croix dresse le portrait d'une douzaine de personnalités de tous âges, de tous horizons, qui s'investissent, qui prennent ces métamorphoses à bras le corps. Il y a par exemple le portrait d'Innie Damien, qui travaille avec les femmes africaines, Victorien Hérussard, qui propose un nouveau modèle énergétique, ou encore une architecte, Anne Héringer, qui propose, elle, des gratte-ciels de boue et de bambou.